9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Les auditeurs de Radio Classique connaissent la Moldau en tchèque Voltavo, qui est un peu l'hymne de liberté et d'espoir des Tchèques, au moins depuis la fin du siècle dernier. Vous vous rappelez l'importance symbolique qu'avait acquise cette œuvre. Œuvre qui fait aussi peut-être un peu oublier les luttes du compositeur, dont la vie a été marquée d'abord par beaucoup de deuil, par des oppositions artistiques virulentes. Smetana a pris conscience peu à peu de ses véritables racines et il a œuvré au réveil d'une culture nationale dans le cadre de ce qui, à l'époque, était encore l'Empire austro-hongrois, bien entendu. Il s'agissait de rompre et de rompre complètement avec la tradition autrichienne. Son militantisme pour la cause tchèque ne s'est exprimé véritablement qu'à partir de ce qu'on a appelé le printemps des peuples en 1848. Avant, il n'y a pas d'antagonisme violent entre Allemands et Tchèques. Tout ce monde-là vivait dans une bohème aimable, disons. La musique populaire n'était pas encore devenue l'arme d'une espèce de nationalisme qui se déclarait contre la tutelle autrichienne. C'était plutôt à l'époque encore le symbole d'une harmonie naturelle entre des peuples qui partageaient la même terre. Et pourtant, au fil des années, rien ne pourra plus empêcher que cet attachement à la terre s'identifie à la langue matérielle et qu'en 1848, il devienne une sorte de réaction au pangermanisme ambiant. Il y a là un symbole qui devient un symbole politique, qui devient le symbole de toute une lutte. C'est ce que nous allons revivre.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est dans la Bohème de l'Est qu'est né Smetana en 1824, il y a 200 ans, enfin il y a eu 200 ans le 2 mars dernier. Il est né à Litomichl, ne me demandez pas comment ça se prononce exactement, on est sur les marches de la Moravie. Son père est brasseur pour le comte des Wallenstein. Le petit Smetana navigue dans une bourgeoisie assez aisée, qui fréquente le château Renaissance du coin. Un milieu où l'on parle évidemment allemand, on oublie le tchèque. Le culte de Mozart est très vivace à l'époque. Le compositeur qui avait trouvé chez ses chers pragrois ce que la Vienne habsbourgeoise lui avait refusé, ce compositeur est fêté partout en Bohème. En 1831, la famille s'installe dans le sud de la Bohème, où František reprend une brasserie dont le propriétaire est le comte Czerny. Vous voyez qui est Czerny, un grand violoniste, fier de posséder un piano sur lequel Mozart avait joué, qui va encourager le jeune Smetana à persévérer dans des études musicales. Il s'appelle Wiedrich, ce garçon, qui est un petit peu autodidacte, qui va tâcher de s'imprégner de la couleur locale. Il aime son pays, il en étudie l'histoire, il observe le peuple tchèque dans toute sa diversité. Depuis la noblesse qu'il a donc appris à connaître à travers les affaires de son père, jusqu'aux simples ouvriers et paysans qu'il voyait travailler de même dans la brasserie. Il a constamment fait ce grand écart. Et en 1835, le père František rachète un domaine dans le hameau de Lotiché, on est dans le sud-est de la Bohème. Impossible de ne pas imaginer là le mûrissement de l'adolescent devant ce qui relève à la fois de l'histoire, de la légende, d'une espèce de poésie, un paysage extraordinaire. Il peut apercevoir le mont mythique de Blanik, qui est tout proche de la ville de Tabor. Tout ça, ce sont des lieux que plus tard, il popularisera dans un cycle musical que vous connaissez, Ma patrie, bien entendu, Ma blast. Vers sa 15e année, Wiedrich s'en va étudier à l'Académische Gymnasium de Prague. Il est pensionnaire chez les Prémontrés, c'est un ordre de chanoines réguliers, les Prémontrés, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Ça n'empêche pas ce jeune homme de déployer certains avantages, on va dire, de séducteur, de danseur mondain, de compositeur de polka. Il achève ses études classiques sous ce côté un petit peu, j'allais dire bohème, mais au sens le plus noble qu'on puisse trouver à ce terme. Et puis, il va déjà manifester son attachement à sa terre natale par une forme de patriotisme, comme tout bon tchèque en cette époque. Biedermeier nous dit son biographe Guy Erismann, ses velléités patriotiques se limitent à l'attendrissement devant la joliesse des paysages, aux cérémonies en costume folklorique, au premier collectage de chansons populaires. Vous voyez quand même qu'il y a un enracinement, un attachement à tout ça. Prague, c'est le poumon culturel de la Bohème, bien entendu, avec ses opéras, ses salles de concert, etc., qui attirent les musiciens, les chanteurs du monde entier, dont Franz Liszt, que Smetana aura l'occasion d'entendre en récital. Mehdrich prend conscience de l'horizon un petit peu provincial qui jusqu'alors a été le sien, et il ouvre des yeux grands comme des soucoupes devant chaque bâtiment officiel de Prague. Il faut dire que cette ville est une chose tellement incroyable. Et puis, entre 40 et 43, 1840 et 1843, il s'en va poursuivre ses études à Pils, à Pilsen, c'est une centaine de kilomètres de Prague. Les amoureux de la bière connaissent cette ville. Il compose, malgré son absence de formation solide, disons les choses, encore une fois, il est relativement autodidacte, il décide de se consacrer à la musique et son père l'encourage. Avec l'aide de Dieu, je deviendrai aussi bon interprète que Liszt et aussi bon compositeur que Mozart, écrit-il dans son journal. C'est ce qui s'appelle avoir de l'ambition, ça. Il va se trouver quand même dans une situation délicate en revenant à Prague, ce jeune musicien qui est évidemment trop vieux maintenant pour intégrer le conservatoire, qui est dans l'impossibilité matérielle de suivre des leçons de musique. Il n'a même pas de quoi louer un piano. Tout ça s'accompagne d'ailleurs de difficultés financières dans sa famille. Bref, au cours de son séjour à Pilsen, il est tombé amoureux d'une jeune pianiste. Elle s'appelle Katerina Kolarova. Il a été obligé de différer ses projets parce qu'il n'est pas question pour lui de fonder une famille. Il n'a pas les moyens. Passion contrariée donc, qui va trouver son exutoire dans la musique. Il ne peut pas fonder avec Katerina le foyer qu'il aimerait fonder. Et il va fuir en quelque sorte dans une composition. Il fait de nombreuses pièces pour piano à l'époque. Et puis voilà que la chance lui sourit. Dans sa détresse, il rencontre un pianiste aveugle qui s'appelle Joseph Proksch, auquel il fait une impression telle que le pianiste en question l'accepte comme élève dans sa propre école de musique. Il entre là avec Katerina. Et Proksch va dispenser à ses nouveaux élèves un enseignement très avancé, beaucoup plus que celui qu'on délivre habituellement dans les institutions officielles. Finalement, ça a été la chance incroyable de Smetana. Et Proksch va lui faire connaître de l'intérieur, les musiques de Chopin, de Weber, de Liszt, de Berlioz et même de Wagner. C'est Sir Andra Schiff qui interprétait cette petite polka pour piano de Smetana. Vous voyez le genre de composition qu'il faisait dans la première partie de sa vie.
Vous écoutez Radio Classique.
Et il donne des récitals, Smetana, tout autour de Prague. Il faut bien dire que les salles sont pas très remplies. Le jeune concertiste va être contraint d'annuler certaines dates, tellement il y a peu d'inscrits. Et finalement, il lui faut trouver d'autres sources de revenus. Il a, en 1848, l'année charnière dont je vous parle depuis tout à l'heure, il a 24 ans et toutes les audaces. Il écrit à Liszt, à qui il dédie son opus 1, un cycle de pièces caractéristiques qui donne la part belle à la polka, comme vous venez de l'entendre. C'est la grande vogue de la polka à l'époque, même Théophile Gautier en fera l'éloge, vous savez. Liszt assure Smetana de la grande qualité de son œuvre et il lui dit qu'il va lui trouver un éditeur. Et c'est à cette époque que, de son côté, Smetana prend conscience du rôle qu'il pourrait jouer dans ce qui est en train de se passer un peu partout en Europe, ce printemps des peuples. Il y a une lutte nationale, pour pas dire nationaliste, qui est en train de se lever dans son pays. Le pouvoir de Metternich commence à s'effriter. Les Tchèques espèrent la fin de la domination autrichienne et les partisans de l'indépendance, dont l'oncle de Smetana d'ailleurs, le pressent de mettre son talent au service de cette grande cause. Il faut faire de la musique qui soit moins germanique, qui soit plus tchèque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ce que Smetana va essayer de comprendre lui-même. Il y a une émeute à Prague, le 14 juin 1848. Weidrich entend prendre sa part dans tout ce qui se passe, dans ces événements. Il le fera en musicien. Il exprime sa solidarité avec les forces révolutionnaires en composant plusieurs marches, des chants de liberté pour ses compatriotes insurgés. Il comprend en même temps que s'il veut devenir un compositeur tchèque, s'il veut devenir en quelque sorte le compositeur de cette nation tchèque en pleine conscience d'elle-même, il doit parler cette langue tchèque. Il ne s'agit plus de parler allemand. Il n'est pas très doué pour les langues. En même temps, ça va lui demander des années. Bref, en août 49, il épouse enfin Katerina. Le jeune couple va connaître quelques années de bonheur en vivant de leçons de musique et des œuvres que Smetana compose. En 53, il écrit sa symphonie triomphale à l'occasion des noces de l'empereur François-Joseph et d'Elisabeth de Wittelsbach, la fameuse Sissi. Et donc, évidemment, là, il est bien obligé de faire avec les Autrichiens. Là. Il cherche la reconnaissance autrichienne, si vous voulez. D'ailleurs, l'hymne autrichien de Haydn va servir de fil conducteur à sa partition. La dédicace n'en est pas moins rejetée, ce qui prouve que ce n'est pas dans ce sens-là que doit se développer la carrière de Smetana. Il a essayé de faire un pas vers les Autrichiens. Les Autrichiens l'ont rejeté, vous voyez. Les années 54-55 sont assez désastreuses puisque trois des quatre filles du couple vont trouver la mort et Katerina elle-même contracte la tuberculose. Et là, c'est vraiment le fond du gouffre pour Smetana qui choisit l'exil comme beaucoup de ses compatriotes d'ailleurs. Il tente sa chance en Suède et après un long voyage compliqué, il arrive à Göteborg en septembre 56 avec Katerina et la dernière des filles qui leur reste. Et là, les débuts sont plus prometteurs qu'ils ne l'avaient été à Prague, disons-le. À Göteborg, il va donner son premier grand concert, suivi de nombreux autres. Il ouvre dans la foulée une école de musique dont le succès est immédiat. Et puis, avec sa famille, il se rend chez Liszt, à Weimar. Il rencontre le chef d'orchestre Johann Herbeck, qui, sans le savoir, va donner son impulsion à la musique tchèque en déclarant à Smetana « Les Tchèques ne sont qu'un peuple de violoneux incapables de produire ne serait-ce qu'un seul compositeur véritablement tchèque ». Ah, ça s'appelle une provocation. Et Liszt, en entendant ça, décide de dissiper le malentendu. Il s'installe au piano, il joue l'opus numéro 1 de Smetana pour faire taire ce chef d'orchestre qui dit n'importe quoi. Katerina, pendant ce temps-là, est de plus en plus malade et elle va mourir en 1859. Et là, Smetana est complètement dévasté. Et une fois de plus, il va fuir dans la musique. Vous avez bien compris que c'est sa façon de faire. Il se jette à corps perdu dans la composition. Il se rend à Leipzig sur l'invitation de Liszt, où il assiste à une représentation du Tristan de Wagner. Il se remarie avec Bettina. Bettina sera donc sa seconde épouse une fois de retour dans son pays. Mais il compose, Smetana, il compose.
Thank you.
Dana Bureshova et Thomas Juas avec l'orchestre symphonique de la BBC et les chanteurs de la BBC sous la direction de Jiří Belohlavek. C'était un extrait de la première scène de l'acte 1 de La fiancée vendue.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
La fiancée vendue, c'est une œuvre qui glorifie ce peuple tchèque rusé, fier, qui sait faire triompher l'amour, c'est léger, c'est fort et évidemment c'est tout à fait dans l'esprit du nouveau théâtre national tchèque. Il faut savoir que Smetana était chef de chœur à Prague de 63 à 65. Il s'est investi complètement dans ce théâtre national inauguré en 1862. Il va aussi rencontrer juste à peu près à cette époque, à partir de 66, c'est en 66 La fiancée vendue, il va rencontrer le jeune Dvořák, qui est en train de lui aussi essayer de percer sur la scène pragoise. Et il s'entend bien avec Dvořák, il va l'encourager. Smetana n'en est pas moins la proie de toutes les intrigues, une grande jalousie. On lui reproche d'être trop wagnérien, notamment dans l'opéra Dalibor. Tout ça est difficile. Il a vécu une vie trop dure, d'une certaine façon. Il a un ulcère à partir de 74, et puis une infection de la gorge, et beaucoup d'éruptions cutanées. Et puis surtout, et ça c'est terrible, un peu à la façon de Beethoven, vous savez, il est atteint de surdité, probablement à cause de la syphilis d'ailleurs. Ça, c'est terrible. Tout ça ne l'empêche pas de se lancer dans une comédie tout à fait mozartienne, Les deux veuves, qui témoigne de l'ouverture d'esprit de Smetana, qui reste tendre et humoristique malgré le mal qui l'assaille. C'est une dernière décennie difficile qu'il va vivre maintenant, mais il n'en déploie pas moins une activité créatrice absolument extraordinaire, avec une maîtrise technique, avec une force, une profondeur d'inspiration incroyable. Et tout ça va déboucher dans le gros morceau, si je puis dire, dans « Ma patrie, ma vlast ». Le moral de Smetana est au plus bas au moment où il compose ce qu'il a fait de plus important, d'une certaine manière. Il a fait des cycles pour piano, les danses slaves, les danses tchèques, etc. « Croyez-moi, il me faut bien du courage pour ne pas m'ôter la vie, » dira-t-il. « Seule ma famille et la pensée que je travaille pour mon pays et mon peuple me donnent encore la force de vivre et de composer. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il va y avoir en mai 1882 la 100e représentation de La fiancée vendue et on en profite pour fêter Smetana qui est complètement épuisé, angoissé. En plus, il est dans cette surdité totale qui va lui faire perdre la raison. On sera obligé de l'interner à l'asile d'aliénés de Prague où il mourra le 12 mai 1884. Faites le calcul, parce que je vous ai dit qu'il était né bien sûr en 1824. Il meurt à 60 ans. Au moment même où on donnait enfin une grande place à son œuvre, ses obsèques ont donc lieu 3 jours plus tard à Prague devant une foule recueillie qui lui fait cortège, qui défile symboliquement devant le Théâtre National. Et sur sa tombe, on écrit ces mots qui pourraient paraître anodins, mais vous aurez compris qu'ils ne le sont pas du tout. Il est musicien tchèque. C'est comme ça que la postérité c'est comme ça que la postérité le fêtera, si je puis dire. Son véritable hymne à sa patrie, évidemment, c'est le célèbre poème symphonique de la Moldau, qui s'accompagne de ce texte. « Deux petites sources jaillissent à l'ombre de la forêt, l'une chaude et agile, l'autre froide et endormie. Elles s'unissent, leurs prestes vaguelettes clapotent entre les cailloux et vibrent au soleil. Dans sa course hâtive, le torrent devient une petite rivière, la Moldau, qui se met en route à travers le pays tchèque dans un bruissement toujours plus ample. Elle traverse les fraîches prairies où le peuple chante et danse au son des notes campagnardes. Au clair de lune, les fées des eaux, les roussalkas, y rondent et s'y ébattent sur le flot argenté dans lequel, plus loin, se mirent les châteaux revêches, contemporains de la vieille gloire et des vertus guerrières. »
Thank you.
d'habitude, c'est la voix de Christian Morin qui désannonce cette Moldao de Smetana. Merci, grand merci à Jérémy Bigori d'avoir fait revivre ce compositeur à la fois douloureux et parfaitement tchèque. Vous n'êtes pas tchèque, vous êtes bordelais, vous, mon cher Christian.
Oui, je ne sais pas s'il y a des points communs avec la Tchéquie. Il faut pas qu'on se renseigne.
La beauté de certains édifices, peut-être.
Ah, du côté de... Non, mais, cela dit, quand on va à Prague, le vieux Prague... évoque un peu le Paris des années 30, hein, sur le plan d'architecture. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les tournages de Maigret se passaient à Prague.
Ah oui, vous voulez dire pour l'ambiance, mais pour ce qui est de l'architecture, je pensais, moi, au Bordeaux du 18e, tout
simplement. Ah, le Bordeaux du 18e, à voir absolument. Ben, on reste au bord de certains fleuves. On quitte la Moldao, on passe par la Garonne, et puis je vais évoquer dans un petit instant un podcast concernant un rendez-vous avec vous, mon cher Franck. Il s'agissait de cette grande artiste à laquelle vous avez consacré une émission, c'est Zhu Xiaomei, cette pianiste formidable. On va l'écouter. Il y a un livre, justement, La rivière et son secret, qui pourrait très bien aller avec la vie que vous venez d'évoquer de ce Smetana.
C'est Zhu Xiaomei.
Zhu Xiaomei, oui. Voilà. Je sais que vous prononcez mieux le chinois.
Non, je ne prononce pas le chinois.
Mais alors, hier soir, figurez-vous que je suis tombé sur la chaîne Histoire sur la construction du Vatican, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne savais pas que cet après-midi, eh bien, Franck Ferrand évoquerait un scandale, l'affaire Mortara au Vatican. Alors là, 14h, soyez tous à l'écoute de Radio Classique. Si vous le permettez, une parenthèse pour quelqu'un qui était un fidèle de Radio Classique, qui aimait la musique classique, c'est notre ami Michel Blanc, qui vient de partir un peu trop tôt
et oui, beaucoup trop tôt
ce matin. Merci Franck, bon week-end.
Bon week-end à vous. Et on se retrouve.